Les pionniers de la ville durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la ville durable.
Bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro des pionniers de la ville durable, une émission coproduite par Radio Immo et Construction 21. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Côme Le Sage. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable marketing stratégique et communication de Rector Le Sage. Alors, vous allez déjà nous présenter le groupe Rector. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu quel est le métier du groupe Rector ?
Oui, alors le groupe Rector, c'est un groupe actionnariat 100% familial. Je suis actionnaire de la cinquième génération et opérationnel dans le groupe depuis 4 ans. Et donc on est une entreprise qui fête cette année ses 125 ans avec une activité industrielle qui remonte à la fin du 19e siècle, qui a démarré par la terre cuite et qui est dorénavant une activité de préfabrication de systèmes de gros œuvres essentiellement en béton. Donc concrètement, on fabrique des produits comme la poutrelle, les systèmes de plancher prédalle, les prémurs, des poutres, des dalles alvéolaires. En gros, tout ce qui est les éléments de gros œuvres qui servent dans l'ossature du bâtiment.
D'accord.
On a une stratégie qui depuis plusieurs années a évolué, puisque au départ, voilà, on se définissait vraiment comme fabricant de produits en béton qui étaient à base de technologies de béton armé ou au béton précontraint. Et de plus en plus, on passe de cette stratégie de simple préfabricant où on maîtrisait finalement pas trop, où on souciait peu de l'usage qui était fait de nos produits, à une approche de co-conception des bâtiments durables. Et donc là, c'est une autre approche, une autre dimension, puisqu'on vient proposer finalement des systèmes et qui nécessitent aussi un peu plus d'ingénierie et un peu plus d'accompagnement et de service.
Alors justement, on va en parler dans quelques instants hein, de cette démarche durable dans laquelle justement Rector est pleinement investi. Pouvez-vous nous parler de votre métier à vous, donc en tant que responsable marketing stratégique et communication, et peut-être nous donner quelques chiffres?
Oui, alors... Donc, concernant le métier, il y a effectivement donc les deux volets. Il y a la partie marketing stratégique. Donc, au sein de la direction innovation, le marketing stratégique est composé de chefs de produits et services. Vient spécifier auprès de la R&D quels sont les besoins en cours, mais aussi les besoins futurs de nos clients. Et pour tout simplement que la R&D puisse plancher sur des projets d'innovation de rupture ou tout simplement d'amélioration de nos modes constructifs. Qui répondent à toutes ces attentes. Le tout, évidemment, avec des objectifs de rentabilité, des objectifs de contraintes industrielles à respecter. Ça, c'est pour l'aspect vraiment marketing stratégique. Et puis après, il y a le volet communication, où donc là, c'est le département est géré par la responsable du service communication qui pilote toutes les activités avec son équipe, toutes les activités de com interne ou externe. Donc, c'est aussi bien de la com, on va dire, tradie que la com un peu plus digitale, l'animation des réseaux sociaux.
D'accord.
D'accord. Pour ce qui concerne les grands chiffres, aujourd'hui, j'en ai pas parlé dans l'introduction, mais le groupe Rector aujourd'hui pèse sur 2021 un chiffre d'affaires de proche de 280 millions d'euros et pour 1300 salariés, avec une présence dans 3 pays, historiquement la France, là où on a l'essentiel de nos sites de production, et également la Belgique et la Pologne, où on a respectivement dans ces 2 pays 2 usines, deux usines en Pologne et donc 2 usines en Belgique.
D'accord. Petite question comme ça, vous n'avez pas été impacté par l'actualité internationale comme la Pologne et frontalière de l'Ukraine ?
Disons pas directement. Alors on est évidemment comme tout le monde dans la construction impacté par on va dire les effets collatéraux de oui. Donc sur l'inflation des coûts des matières premières sur les aciers en particulier.
Mais ça personne n'y échappe.
Après sur la partie c'est sûr que en particulier une de nos usines qui est finalement pas très très loin de la frontière polonaise. Donc là aujourd'hui il y a un afflux de migrants qui viennent d'Ukraine. Aujourd'hui, ces gens-là, ils seront amenés à rester en Pologne, soit ils seront amenés à rentrer dans leur pays. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura, je pense, un rôle à jouer pour les reloger, puisqu'en Pologne, on a vraiment accompagné la croissance de l'activité de construction de logements ces dernières années. Les Polonais, notamment avec l'essor de la classe moyenne, ont tous aspiré à habiter dans des logements plus qualitatifs. Et aujourd'hui, on voit vraiment le boom de cette activité de la construction de logements neufs, de meilleure qualité que ce que les Polonais avaient l'habitude d'avoir par le passé. Et je pense qu'au niveau de l'Ukraine, il y aura certainement ces mêmes aspirations. Alors, soit des Ukrainiens en Pologne qui auront besoin d'être logés, soit des Ukrainiens dans leur pays.
D'accord. Alors, concernant la démarche durable dont vous parliez tout à l'heure, la démarche durable du groupe Rector, alors comment elle se traduit, cette démarche? Et pouvez-vous nous parler aussi peut-être du colloque Build and Connect?
Oui, alors, elle se traduit, cette démarche durable, c'est... déjà avec des engagements concrets, parce que depuis pratiquement 2 ans maintenant, le groupe est engagé dans une démarche RSE avec vraiment une structuration de cette démarche qui s'est mise en place au cours des 1 an et demi passé, une gouvernance qui est maintenant en place, des axes prioritaires, un plan d'action qui a été élaboré, des objectifs qui ont été définis sur le court et le plus long terme. Et un de ces axes, qui est le premier axe, concerne vraiment la décarbonation de nos produits et systèmes et de notre activité au sens large, ce qui nous force, nous aussi, au niveau de la direction innovation, à avoir une feuille de route et une stratégie pour atteindre ces objectifs-là. Donc, notre feuille de route est finalement assez simple. La stratégie consiste, il y a 3 axes principaux, hein. C'est tout simplement d'éviter l'émission de carbone, mm-hmm, autant que possible, oui, de réduire ces émissions de carbone et de les compenser. Donc c'est quelque part rien de nouveau sous le cocotier, mais ça nous donne une feuille de route assez claire. L'évitement, c'est tout simplement en faisant en sorte que on ait le moins de nos produits à poser finalement sur les chantiers, et que les produits qu'on va poser sont le plus efficaces possible. La réduction, ça c'est au niveau de la réduction de l'intensité carbone de nos produits. Et enfin la compensation, ça c'est par l'effet notamment la captation carbone et profiter de l'effet puits de matériaux, notamment biosourcés. Hein. La participation au salon Build and Connect et à la communauté Build and Connect d'une manière générale, pour nous, ça avait du sens parce que autant avant, on était quelque part enfermé dans une logique de filière béton, et on voit bien que la construction intelligente pour des villes durables, elle ne va pas se faire monofilière. Hein. Elle ne va pas se faire tout en bois, elle ne va pas se faire tout en béton décarboné, elle ne va pas se faire tout en acier décarboné. Notre sentiment, c'est que c'est en travaillant avec les autres filières et avec les autres acteurs de la construction qu'on arrivera ensemble à proposer des solutions décarbonées intelligentes.
D'accord, donc c'est ensemble que vous réussirez à trouver des solutions. Donc, quelle part au sein de l'ensemble des chantiers de construction représentent les planchers dalles préfabriqués?
Alors, les données sur ce type de mode constructif en France aujourd'hui ne sont pas suffisamment précises pour avoir des chiffres exacts. Par contre, on a effectué un certain nombre d'études de marché. On a également commandé des études de marché externes qui nous amènent à estimer ce marché aux alentours de 5% des chantiers tertiaires en France qui sont réalisés en plancher dalle, en béton coulé en place.
D'accord.
Par contre, pour la partie logement, cette part descend à zéro, ou du moins très proche de zéro, puisque alors que dans de nombreux pays européens ou outre-Atlantique, ce mode constructif, le poteau plancher dalle, est largement répandu pour les immeubles d'habitation, en France, ce mode constructif est totalement, alors pas, je dirais pas inconnu, mais en tout cas totalement inexistant, pas mis en œuvre. Et quand il est mis en œuvre, c'est vraiment uniquement pour le tertiaire et c'est du béton coulé en place. Donc finalement, la part préfa du plancher dalle aujourd'hui, il y a que nous qui avons une solution qui est la solution marketée sous la marque Caméléo. Et pour le moment, donc c'est quelques chantiers pilotes qui sont déjà sortis de terre. On a notamment deux chantiers, deux logements qui ont été réalisés en 2022 et un troisième qui arrive. Mais également, depuis plusieurs années, par contre, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on se positionne en préfa sur les planchers dalles réalisés dans le tertiaire. Donc aujourd'hui, finalement, c'est plus un travail de prescription dans les chiffres réels de la construction. Le nombre de bâtiments en plancher dalle préfabriqués, ça reste très très limité.
D'accord. Est-ce qu'il existe une solution qui permet de faire des économies de carbone et quel pourcentage de baisse en moyenne ?
Cette solution de plancher dalle préfabriqué Caméléo dont je parlais juste avant est intéressante justement pour les économies de carbone parce que si on prend juste en compte la partie ossature du bâtiment qui va concerner donc ce que la valeur ajoutée par rector, donc c'est les poteaux, les dalles avec leur table de compression. C'est déjà juste une économie de matière de l'ordre de 15 à 20%. C'est-à-dire c'est 15 à 20% de volume de béton en moins, tout simplement parce qu'il n'y aura pas de façade porteuse et il n'y aura plus de mur de revêtement. Donc finalement, les fondations du bâtiment vont être moins sollicitées, donc on va avoir un bâtiment plus léger. L'usage du béton sera limité vraiment à son strict minimum. Donc ça, c'est déjà vraiment juste sur l'économie de matière, de volume de béton, on est donc c'est le fameux béton qu'on met pas, c'est celui-là qui est le moins carboné, hein. C'est déjà 15 à 20%. Là où autrefois, c'est encore le mode constructif actuel largement plébiscité en France, hein, c'est habituellement des murs béton de 18 à 20 cm d'épaisseur que l'on met. Donc à ce bénéfice-là, sur la réduction de volume béton, vient s'ajouter aussi un autre bénéfice qui est celui de la formulation des bétons qui servent à la réalisation de ces éléments préfabriqués en béton, notamment les prédalles, les prédalles poteaux plancher dalle qui composent le plancher, elles peuvent être réalisées aussi en formulation béton bas carbone. Une formulation qu'on a marketée sous la marque Airsoft et qui est 50% moins carbonée qu'une prédalle classique. Donc cette formulation, c'est tout simplement cette réduction de l'intensité carbone par rapport à une prédalle standard est due à plusieurs faits. C'est qu'il y a l'usage de formulation de béton décarboné, donc notamment par l'emploi de litier dans les recettes de béton, mais également par un travail qui a été fait en usine sur l'étuvage et un travail également sur les approvisionnements d'acier qui sont en très grande partie recyclés. Donc ça permet là aussi de baisser l'impact carbone. Et après, le dernier point, en fait, c'est quelque part les externalités positives permises par ce type de structure, c'est que le remplissage, plutôt que donc de mettre des éléments verticaux porteurs en béton plein lourd, on peut remplacer ça par d'autres types d'éléments verticaux qui peuvent être en bois ou en biosourcé, qui peuvent être porteurs ou non porteurs d'ailleurs, donc façade ossature bois, maçonnerie biosourcée ou encore des panneaux complets biosourcés. Il y a un certain nombre de projets d'ailleurs qui vont dans le sens de réfléchir justement comment venir compléter la structure par des matériaux biosourcés qui eux vont avoir un avantage, c'est qu'ils vont aussi capter du carbone, donc ce qui a pour objectif d'alléger considérablement l'impact carbone global, donc quand on fait l'ACV du bâtiment avec cette structure, de réduire très très fortement l'impact carbone global du lot superstructure.
Oui, justement, réduire son empreinte carbone, c'est un devoir, une obligation maintenant, hein, et tout le monde s'y met. Alors justement, la mixité des matériaux utilisés et l'allègement de vos produits, est-ce que ça permet aussi de faire diminuer ces consommations de carbone, et comment vous les mettez en œuvre ?
Oui, alors effectivement, parce que les éléments en particulier verticaux biosourcés qui vont venir en remplissage quelque part entre les poteaux et les dalles qu'on aura mis en œuvre, ces éléments-là, ils vont venir capter du carbone, puisque ils ont un impact. Les FDES de ces produits ont un bilan carbone négatif qui va venir compenser le carbone. Le carbone qui restera sur la partie plancher et poteau structure. Concernant la mise en œuvre, là où c'est intéressant ce système-là, c'est que c'est quelque part un des seuls systèmes vraiment pas du tout disruptif par rapport au mode constructif actuel. C'est-à-dire que il peut être mis en œuvre, et c'est ça tout l'intérêt, par n'importe quelle entreprise de gros œuvre qui sait poser de la prédalle aujourd'hui. Elle n'aura aucune difficulté à mettre en œuvre ces produits-là. Ça ne nécessite pas d'équipement ou pas d'expertise particulière. Il n'y a pas besoin, à l'inverse, d'autres solutions constructives, comme par exemple la construction en CLT, qui souvent nécessite des compétences particulières ou des entreprises particulières. Là, n'importe quelle entreprise de gros œuvres qui a soit l'habitude de brancher ou de poser de la préfa, saura le mettre en œuvre. La seule vigilance, c'est finalement au départ dans l'implantation des poteaux, mais après, toute la complexité en matière de ferraillage de la dalle, elle est traitée en usine. Ce qui est sûr, c'est que pour s'assurer, notamment pour les entreprises qui démarrent et qui mettent en œuvre ce type de solution pour la première fois, on a un service d'accompagnement justement des entreprises. Non seulement il y a les plans de pause, les séquences de pause, mais également on a une personne qui va accompagner l'entreprise de gros œuvres dans les premières étapes de la mise en œuvre de cette solution pour s'assurer qu'ils sachent bien faire, que s'ils ont des questions, on a les réponses immédiates.
D'accord. Le prix de la solution, est-ce que c'est un frein à son développement ?
Non, je dirais, en fait, il y a des freins au développement de cette solution, mais c'est pas le prix. Et au contraire, les promoteurs l'ont bien compris, puisque sur le coût global du système à la construction, on arrive à être vraiment très compétitif par rapport à toutes les autres solutions décarbonées du marché. Et si on réfléchit sur le long terme, on est encore plus compétitif, parce que la structure plancher dalle amène une certaine flexibilité, une certaine modularité du bâtiment, notamment en cas de changement d'usage ou de volonté de rénovation lourde du bâtiment. Là, justement, le système s'avère être encore plus économique, puisque on imagine le bâtiment pas pour un usage unique à l'instant T, au moment où il est construit, mais on l'imagine tout à fait reconfigurable grâce à ce type d'ossature. Donc ça, c'est vrai que sur la durée, je pense notamment par exemple au bailleur, la reconfiguration des pièces que ça permet, ce type de structure, est un gros avantage financier.
Et alors justement, sur quel chantier et sur quel secteur vous concentrez-vous pour développer votre activité ? Dernière question, rapidement.
Oui. Alors nous, on est vraiment dans une volonté d'industrialiser tous les chantiers de France, de plus les industrialiser pour faire regagner de la compétitivité aux entreprises, tout en amenant des solutions de décarbonation pour le bâtiment. Maintenant, la solution Caméléo vise vraiment le cœur de cible, c'est les chantiers de logement collectif, mais également tout ce qui est résidentiel, non résidentiel, type ERP et tertiaire. Donc nous, ce qu'on pense, c'est vraiment que cette solution a de l'avenir et devrait se massifier dans les années qui viennent. On a aujourd'hui de nombreux projets pour lesquels la solution est prescrite. Donc on s'attend vraiment à ce que cette solution, qui est en rien disruptive, à l'inverse d'autres solutions de construction hors site, puisse accélérer justement la transition vers la construction de villes plus durables.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, comme le sage, pour cette interview.
Merci à vous.
Les pionniers de la ville durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la ville durable.